Bonjour à toutes et à tous, et surtout merci d'être présents pour cette présentation de la revue Loncourt, et plus précisément du numéro 7, que vous découvrez en avant-première, car il ne sera en vente en librairie que le 15 mai. Donc nous avons réservé l'avant-première à la ville de Bordeaux et à la librairie Mola, qui nous soutient depuis le numéro 1 de Loncourt, qui est sorti en août 2012. Donc nous en sommes déjà au numéro 7. Déjà, je vais quand même me présenter parce que vous ne me connaissez pas. Je suis Tristan Savin, le rédacteur en chef, l'heureux rédacteur en chef de cette très belle revue. C'est une revue que je rêvais de faire depuis plus de 20 ans. Moi, je suis journaliste, j'ai été reporter, notamment à Géo, j'ai beaucoup voyagé. Et je suis aussi critique littéraire et j'ai toujours rêvé de conjuguer mes deux passions qui sont la littérature et le voyage. Le groupe Express qui édite cette revue fait ce très beau cadeau de me confier la rédaction de Loncourt, qui est assez difficile à définir parce que c'est un nouveau modèle de revue. On appelle ça dans le jargon marketing, l'affreux jargon marketing, on appelle ça un MOOC, qui est un mot très laid qui veut dire magazine book. Magazine book, donc c'est tout simplement une revue hybride entre l'édition et la presse. C'est à la fois un magazine, mais c'est aussi un livre. C'est pour ça que c'est vendu en librairie. C'est vendu au prix d'un livre de poche. Ce genre de revue qui s'est apparu, on va dire, il y a 4-5 ans, les MOOC, avec notamment la revue 21. Ce genre de revues qui font en moyenne 200 pages permettent, contrairement à la presse traditionnelle, les news, magazines, les quotidiens, ça permet d'aller plus loin, ça permet surtout d'avoir plus de place pour parler d'un sujet. C'est pour ça que d'ailleurs que la revue s'appelle Loncourt. Il y a un jeu de mots, parce que comme vous le savez, le voyage au long cours, c'est le voyage lointain. Donc nous sommes surtout axés sur le voyage lointain. Nous ne parlons pas de la France. Et l'ambition de Loncourt, c'est d'expliquer le monde actuel, en faisant appel notamment à des grands reporters, notamment mon ami Olivier Weber, qui a accepté de venir présenter la revue, qui est un grand reporter et également écrivain. Et nous faisons appel donc à des grands reporters et à des écrivains pour raconter le monde actuel. Donc dans nos précédents numéros, nous avons publié notamment des textes d'écrivains très réputés aujourd'hui, notamment Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. Nous avons publié des textes, des récits de voyage de Sylvain Tesson. Et nous publions également des auteurs étrangers. Nous avons publié des auteurs comme Luis Sepúlveda, le grand écrivain chilien. Nous avons publié William Boyd. Nous avons publié Alaa El Aswany, l'auteur de l'immeuble Yacoubian, qui nous avions demandé de raconter la crise en Égypte. Donc à chaque fois, on demande à des écrivains de nous raconter leur pays et leur vision du monde. Dans ce numéro 7, qui n'est pas encore sorti, nous avons notamment demandé à Franck Étienne, qui est le plus grand poète haïtien, qui est d'ailleurs pressenti, je l'ai appris récemment, il est pressenti pour le prix Nobel de littérature. Nous lui avons demandé de nous raconter Haïti. Donc ça c'est une des spécificités de la revue Loncourt, c'est qu'un écrivain étranger va pouvoir parler de son pays et surtout il aura la place pour le faire. Quand c'est un quotidien qui demande à un écrivain de parler de son pays, il a deux colonnes, maximum une page dans un journal. Nous lui donnons une douzaine de pages pour s'exprimer. C'est pour ça que généralement les écrivains acceptent immédiatement de participer à notre revue Loncourt, c'est que nous leur donnons de la place. Et ça, c'est très important parce que pour un écrivain, c'est toujours frustrant quand on est habitué à écrire des livres de 300-400 pages. C'est terriblement frustrant de n'avoir qu'une seule page pour raconter quelque chose, et notamment pour parler de son pays. Donc quand Luis Sepúlveda parle du Chili, il a tellement de choses à dire parce que, comme vous le savez, il a fui son pays à l'époque de Pinochet, de la dictature. Et il a des rapports très particuliers avec son pays. Il a vécu en exil pendant des dizaines d'années. Il est retourné dans son pays après la chute de la dictature. Et dans Loncourt, il a pu raconter son parcours d'exilé, raconter sa manière de considérer le pays aujourd'hui, avec le recul que lui donne l'exil en Europe. Mais voilà, c'est ça la spécificité de Loncourt, c'est ce que nous essayons de faire, c'est d'apporter à nos lecteurs à la fois des réponses aux questions qu'on se pose sur la mondialisation, Comme vous le savez, le monde actuel est de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus de médias avec l'Internet. Et c'est de plus en plus difficile pour qui que ce soit, même pour nous journalistes, c'est difficile de comprendre ce qui se passe dans le monde. Ça va tellement vite avec les nouvelles technologies. Et l'actualité internationale est très difficile à suivre. Généralement, il n'y a même pas de suivi dans les médias. Quand on vous parle de la guerre au Mali, une semaine après, on n'en parle plus. La Syrie, il se passe toujours ce drame en Syrie. Mais c'est voilà, on en autre chose. Enfin, l'actualité chasse l'actualité. Alors qu'avec une revue trimestrielle, on peut prendre du recul. On peut vous parler de ce qui s'est passé il y a 3 mois en Syrie ou au Mali, mais on vous le racontera avec du recul. Et c'est la personne qui vous le racontera sera un spécialiste de la question. Que ce soit un écrivain ou un grand reporter, il aura à la fois le temps de se renseigner, le temps d'enquêter, il aura sa connaissance de professionnel en étant allé plusieurs fois dans le pays et en ayant rencontré tous les gens importants pour recueillir des informations. Et ensuite, on lui laissera de la place pour raconter son histoire. Donc, en dehors des récits de voyage et des reportages, nous proposons aussi des enquêtes. Nous proposons de l'investigation. Là aussi, on prend de la place pour des enquêtes. On avait commandé notamment à Roberto Saviano, le spécialiste de la mafia, qui d'ailleurs, sa tête est mise à mort par la mafia. On lui avait demandé de nous raconter les connivences entre la mafia mondiale, hein. Là, je ne parle pas de la mafia italienne, mais des cartels mexicains notamment, la connivence avec les banques. On avait révélé dans le numéro 2 de Long Cours, paru il y a un peu plus d'un an, grâce à cette enquête formidable de Roberto Saviano, nous avions révélé, en avant-première en France, si je ne me trompe pas, les connivences avec les grandes banques européennes et les cartels mexicains. Donc, quand on a le temps, en étant trimestriel, et quand on a des moyens, en étant une revue vendue 15 euros, et quand surtout on a un réseau d'auteurs comme ça qui viennent du monde entier, on peut se permettre de délivrer une information que vous ne pourrez pas trouver dans les médias traditionnels, parce qu'ils n'ont pas la place, tout simplement. Aujourd'hui, comme vous le savez aussi, il y a une crise de la presse. Donc les médias, quels qu'ils soient, même les plus célèbres, comme le Figaro, le Monde ou autres, ou le Nouvel Observateur, n'ont plus les moyens d'envoyer des gens en reportage. Ils le font enfin, beaucoup moins qu'avant. Ils le font encore, mais très peu et uniquement sur l'actualité chaude. Alors que nous pouvons nous permettre d'envoyer nos reporters dans le monde entier pour couvrir pas seulement l'actualité, mais aussi pour devancer l'actualité. Et nous avons notamment parlé de certains sujets avant que les médias vous en parlent, tout simplement parce que les gens de terrain ont des antennes, ils savent ce qui se passe, et parfois l'actualité ne sort pas parce qu'on attend qu'il y ait des morts, mais on peut aussi, quand on est quelqu'un de terrain, qu'on soit photographe, journaliste ou tout simplement un grand voyageur qui connaît particulièrement bien un pays, on peut savoir ce qui va se passer dans un pays et permettre à nos lecteurs de comprendre ce qui va se passer ou ce qui s'est passé. Voilà, on a également des dossiers très complets. On avait publié un dossier sur l'islam, pour lequel on avait fait notre numéro 5, pour lequel on avait fait appel à un spécialiste de géopolitique qui s'appelle Gérard Chalian. Et très sincèrement, moi personnellement, qui n'ai jamais rien compris à toutes les querelles entre les pays du monde arabe, entre les chiites et les sunnites, etc., en lisant son article, j'ai compris tout de suite de quoi il était question. Quand c'est un spécialiste comme ça qui vous en parle et qu'il a 12 pages pour vous raconter les conflits dans le monde arabe, ça, je peux vous assurer que ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend au JT, que ce soit celui de TF1, ou France 2 ou M6, qui n'a que 2 minutes pour vous traiter un problème. Là, on a un spécialiste qui a 12 pages pour vous expliquer tout l'historique en vous racontant la guerre entre l'Arabie saoudite et l'Iran, les implications entre deux mondes qui n'ont rien à voir, le monde persan et le monde arabe, les intérêts en jeu évidemment, avec le détroit d'Ormuz où circule 70% du pétrole mondial. Quand c'est un spécialiste qui vous raconte ça, là, ça vous paraît évident. Là, vous commencez à comprendre les enjeux, vous comprenez aussi pourquoi il y a une guerre en Syrie. C'est tout simplement parce que les chiites et les sunnites se font la guerre depuis des dizaines d'années, on pourrait même dire depuis des siècles. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Mais là, tout à coup, on comprend mieux. Et je suis assez fier d'avoir publié des articles comme ça, parce que franchement, grâce à cette place que nous donnons à ces spécialistes pour s'exprimer, tout à coup, les choses paraissent un peu plus évidentes. Voilà, donc ça, c'est l'ambition de long cours. On publie également des photos reportages. Pour ne citer qu'un exemple, nous avons dans notre numéro 6, nous avons publié un photo reportage absolument exceptionnel. Nous avons eu l'exclusivité en France d'un grand photographe italien, Luca Locatelli, qui nous racontait les Jeux Olympiques des armées. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Quand ce photographe m'a proposé ce sujet, je lui ai dit, mais c'est formidable, j'en ai jamais entendu parler. Figurez-vous qu'il y a des Jeux Olympiques qui ont lieu en Jordanie et toutes les armées du monde y participent, que ce soit les Chinois, les Israéliens, les Américains, autres. Et ces Jeux sont financés par les Américains pour permettre d'entraîner les armées à lutter contre le terrorisme. C'est pour ça que ça a lieu en Jordanie, dans le désert. Et ce reportage était tellement exceptionnel que les droits ont été achetés récemment par la Fox pour devenir un long métrage qui sera un film tourné par Ridley Scott. Voilà, donc on a été là aussi, on était très fiers de publier ce reportage en exclusivité et de savoir que ce reportage que nos lecteurs ont découvert donc en avant-première va devenir un film qui sera probablement un des grands succès du cinéma quand il aura été tourné d'ici un an ou deux. Voilà, donc voilà notre ambition. C'est très ambitieux, bien sûr, mais nous espérons apporter vraiment quelque chose à nos lecteurs à travers le travail de nos équipes, que ce soit des photographes, mais aussi des dessinateurs. Nous publions aussi des récits et des reportages en bande dessinée. Et nous essayons d'avoir une vision la plus complète possible du monde. On traite, en fait, lire un numéro de long cours, quel qu'il soit, vous pouvez en prendre n'importe lequel au hasard, c'est un tour du monde. On traite en moyenne une douzaine de destinations par numéro. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne traite pas la France, mais on peut vous emmener aussi bien en Chine, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, autour de la mer Noire. On a publié des reportages sur le Groenland pour parler du réchauffement climatique. Et en parallèle, on avait envoyé un journaliste aux îles Kiribati, dans le Pacifique Sud, pour montrer le parallèle entre la fonte des glaciers au Groenland. Ça, c'était un très beau reportage de Sylvain Tesson. Et un autre écrivain, Julien Blangras, qui s'était rendu un mois aux îles Kiribati pour enquêter sur ces atolls qui disparaissent à cause de la montée des eaux. Là, vous aviez en parallèle deux reportages. Et là, pareil, d'un seul coup d'œil, vous pouviez comprendre le problème du réchauffement climatique tel qu'il n'a jamais été mis en valeur, à ma connaissance, dans la presse. Là, vous aviez la fonte des glaciers au pôle Nord et au Pacifique Sud, donc à l'exact opposé du globe, vous aviez les atolls qui sont en train de... Et ça, c'est avéré, c'est ce que prouve notre reporter envoyé sur place. La population sur place dit bel et bien que le niveau des eaux monte considérablement et que bientôt, il y aura ce qu'on appellera des réfugiés climatiques. Donc des populations, des îles entièrement abandonnées, qui vont demander le statut de réfugié climatique à l'ONU et qui organisent déjà aujourd'hui leur départ pour aller s'installer en Australie, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, car elles vont devoir, ces populations, quitter leurs atolls. Voilà, on essaye également de ne pas raconter que les malheurs du monde, hein. On n'est pas non plus une revue qui est là pour faire pleurer, mais on essaye de raconter ce qui se passe. On essaye aussi d'avoir des sujets un peu plus légers et de parler des bonnes nouvelles aussi. On avait également consacré une enquête à ce qui se passe dans certaines villes du monde qui ont une très mauvaise réputation comme Medellín, mais aujourd'hui, Medellín n'est plus la ville dangereuse qu'on a connue ces 20 dernières années. Notre reporter Hubert Prolongeau, qui est allé sur place spécialement pour long cours, avait rapporté un reportage fabuleux, qui d'ailleurs avait été remarqué par la presse qui en avait beaucoup parlé à l'époque, c'est que Medellín aujourd'hui n'est plus une ville dangereuse. Grâce à la construction d'un métro, d'un téléphérique, on a ouvert des librairies, il y a des terrains de foot, on a réussi, la mairie a réussi à chasser la mafia. Donc on ne se fait plus descendre dans la rue comme c'était le cas il y a 20 ans. Donc heureusement, il y a aujourd'hui encore dans le monde des endroits qui, à l'inverse de ce qu'on peut imaginer, se portent bien, vont beaucoup mieux. Des villes très dynamiques. Et ça aussi, c'est un bon exemple parce que le long cours essaye de donner aussi des idées à nous, Français, à nos lecteurs. On essaye aussi d'apporter des bonnes nouvelles pour sortir de la crise. Il y a des choses à faire et il se passe dans le monde, dans beaucoup plus d'endroits qu'on ne l'imagine. Il se passe des choses intéressantes, passionnantes. Il y a des idées à trouver. Donc il y a une dynamique qui va dans les deux sens. D'un côté, effectivement, il y a les guerres dont on vous parle tous les jours dans les médias. Mais d'un autre côté, il y a des endroits dont on ne parle pas, dont la presse ne veut pas, parce que comme on le dit traditionnellement, le journal n'est pas là pour annoncer les trains qui partent à l'heure. Mais le but de long cours, c'est aussi ça, c'est de rester positif, de pouvoir montrer que le monde, si on s'ouvre sur le monde, on peut trouver des idées intéressantes. Voilà, et parmi les nombreux reportages publiés dans le numéro 7, qui est donc ici, nous avons envoyé à Macao. Olivier Weber, qui là aussi raconte quelque chose qui est très peu connu, c'est que cette ville qui a longtemps été surnommée l'enfer du jeu est une ville également en plein boom économique. Mais Olivier va vous raconter ça beaucoup mieux que moi.
Ouais, tu peux continuer, ouais, c'est passionnant. Non, merci. Bon, effectivement, c'est une belle revue et le choix de la destination de Macao est une idée qui permet de parler de ce Las Vegas, donc de l'Asie. Alors moi, ça faisait quelques années que j'étais pas retourné à Macao et je croyais retrouver un peu cet ancien confetti de l'empire colonial portugais, donc qui a été rendu, rétrocédé à la Chine en 99, 2 ans après Hong Kong. Donc j'étais allé précédemment, etc. Mais on voyait encore beaucoup de vestiges, des vieux palais portugais, etc. Puis là, tout d'un coup, des tours de partout. C'est devenu donc un Las Vegas qui fait même 5 fois le chiffre d'affaires de Las Vegas. C'est pas simplement exotique, c'est une bonne partie de la corruption chinoise qui vient à Macao. Alors, d'abord, pour vous décrire cet endroit, c'est pas une île, c'est une péninsule, une sorte de presqu'île avec 2 petites îles au bout. C'est pas très grand, c'est quelques kilomètres carrés, c'est un peu plus grand que Monaco, on va dire, mais c'est très étroit, c'est beaucoup plus petit que Hong Kong, dans la baie de Canton, donc tout ça à 1 heure ou 2 de bateau de Hong Kong. Donc il y a encore des endroits magnifiques, mais surtout des tours et des gratte-ciel. Et on voit débarquer des dizaines de milliers de personnes par an qui viennent donc jouer. Alors il y a un petit peu le côté voyage pour les Asiatiques, mais ce sont surtout les Chinois, comme on dit, continentaux de la Chine continentale, donc de la République populaire de Chine qui arrivent. Maintenant, Macao fait partie de la République populaire de Chine, mais avec un statut particulier. Et donc moi j'ai passé, grâce au fait que Tristan donc ait accepté que j'y aille, donc une dizaine de jours sur place. Il faut vraiment du temps pour s'émerger parce que, donc je suis allé à Hong Kong aussi enquêter, mais surtout à Macao, parce que là on voit débarquer non pas des petits joueurs, mais des gros joueurs. Alors il y a des casinos partout, partout. Il y a quinzaine de gros casinos. Chaque grand hôtel a un casino. Si on additionne les salles de jeu, on a plus de 30 casinos et salles de jeu. Mais c'est énorme parce qu'il y a des gardes du corps partout. Il y a des restaurants à l'intérieur des casinos. Il y a différentes salles de jeu très ouvertes. Et dans un des casinos qui est le Lisboa le plus grand, c'est même une sorte de cour ouverte intérieure comme ça sur plusieurs étages. Et puis on peut voir les joueurs en dessous jouer au rez-de-chaussée. D'ailleurs, je vais vous raconter un petit peu après comment ça s'est passé, mais au moins à 2 reprises, les joueurs ont vu passer un autre joueur à travers les étages. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est suicidé parce qu'il avait une dette de jeu. Je vais vous raconter la dette de jeu un petit peu ce que c'est. C'est incroyable. Toute une industrie derrière. Et donc, ces deux joueurs ne pouvaient plus payer, avaient peur surtout qu'il y ait des représailles sur leur famille et se sont suicidés devant les autres. C'est tombé sur les tables. Et puis, bon, on a nettoyé les corps, ils sont morts. Et puis, on est repassé à la roulette ou au baccarat. Alors, pourquoi ça fait 5 fois le chiffre d'affaires de Las Vegas? Las Vegas, quand même pas mal. C'est aussi un paradis ou un enfer du jeu. Tu parlais d'enfer du jeu, c'est vrai que c'est l'enfer du coup. Je me suis toujours posé la question, pourquoi ces deux anciennes colonies, britanniques avec Hong Kong, portugaises avec Macao, ont gardé pratiquement leur même statut, absorbées par la Chine communiste, parce qu'on est encore sous le régime du parti unique, ou pratiquement unique, du parti communiste chinois, pourquoi on a gardé Hong Kong, 8e place financière mondiale, intacte comme avant, et pourquoi on a gardé Macao, l'enfer du jeu avec des casinos? C'était quand même assez hérétique, quand même, autant la rétrocession en 97 et 99. Eh bien, bon, Hong Kong, parce que la place financière, c'est intéressant, évidemment, financièrement parlant, pour la Chine. On a gardé un statut un peu à part. Et Macao, pourquoi? Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de l'enquête, c'est parce que ça permet de blanchir l'argent de la corruption de la Chine. Alors, la Chine. Je parlais encore hier avec une correspondante du journal Le Point, qui est de passage à Bordeaux, qui est à Pékin, donc qui vit à Pékin et qui a longtemps travaillé pour Libération. On avait couvert ensemble la place Tiananmen et on parlait de la corruption. La Chine pratique la peine de mort à hauteur de 2 000 à 4 000 condamnations chaque année. Chaque année. Donc, vous prenez tous les chiffres du monde entier sur la peine de mort, vous additionnez, c'est la Chine qui a 80-90% des cas. Quelques cas aux États-Unis et quelques cas dans d'autres pays, mais de plus en plus, les pays abolissent la peine de mort. Et alors, pourquoi on pratique la peine de mort? On pratique la peine de mort pour deux raisons en Chine, la drogue et la corruption. Quelquefois, c'est la drogue en premier et la corruption en deuxième. L'année d'après, c'est l'inverse, etc. Et d'ailleurs, quand on exécute quelqu'un pour trafic de drogue, c'est souvent dans un stade, devant tout le monde, on lui tire une balle dans la nuque et on fait payer la balle aux familles. Incroyable. Et alors, la corruption, pourquoi? Parce qu'on est allé jusqu'à condamner à vie ou exécuter des ministres ou des maires, par exemple le maire de la ville de Chongqing, qui est l'une des plus grandes villes au monde, qui fait 30 millions d'habitants, qui est au bout du Yangtze-Kiang, etc. On a arrêté le maire, qui avait le statut de vice-ministre de l'Intérieur sur l'ensemble du territoire chinois. C'est une ville tellement importante qu'elle est rattachée directement au gouvernement central. Pourquoi? Parce qu'on a très très peur des révoltes. Ce monsieur, qui dirigeait une partie donc de cette grande ville de 30 millions d'habitants, était totalement corrompu par la prostitution, par le racket, etc., et y compris avec des policiers locaux. Pourquoi on arrête et on condamne, enfin on condamne pour l'exemple souvent, parce qu'après il y a des milliers de personnes qui ne sont pas condamnées et dont on sait qu'elles sont extrêmement corrompues. Pourquoi est-ce qu'on a peur des jacqueries? Alors c'est un peu plus que la jacquerie. La jacquerie en principe, c'est une révolte paysanne. On a peur des révoltes paysannes et ouvrières. Pourquoi? Parce que vous avez, moi je me suis fait expliquer ça longuement pour d'autres enquêtes en Chine, vous avez des cas du Parti communiste chinois qui arrivent chez vous et qui mettent un dazibao. Un dazibao, c'est quoi? C'est une lettre manuscrite ou imprimée tamponnée sur votre maison en disant vous avez de 2 à 6 mois pour dégager, vous êtes exproprié. Alors, vous plaignez à la mairie, au siège du Parti communiste local. Pourquoi vous m'expropriez? Parce qu'il y a une autoroute qui va passer, on va construire une usine, on va construire une école. C'est pas vrai du tout. Les paysans, les ouvriers sont, enfin les propriétaires des lieux sont expropriés, et puis la maison, le jardin, le champ est revendu sur la spéculation immobilière. Qu'est-ce que les cadres du Parti communiste et autres, hein, quelquefois il s'agit de dirigeants d'usines, de cadres régionaux, font de cet argent? Eh bien, ils vont donc le blanchir à Macao, ils vont jouer au casino. Et donc, moi, je me suis immergé dans ce lieu, dans les lieux de perdition que sont les casinos de Macao, parce que, il faut y passer des heures, il faut y passer des jours, et on voit plein de choses. On voit arriver, par exemple, des gros joueurs avec des jetons dans la main, des jetons, voilà, et chaque jeton peut valoir jusqu'à l'équivalent de 10 000 ou 12 000 euros. Et il y en a plein dans les poches. Puis derrière, donc, il y a des compagnons, on ne sait pas trop, des petits voyous, des petites frappes tatouées de partout, qui ont quelquefois des dents en moins, qui suivent. Et ces gens-là, donc, vont miser 30 000 euros, 40 000 euros, 100 000 euros sur la table. Alors, pas dans l'endroit public du casino. Il faut être commencer à se faire des amis, des relations. Et au fur et à mesure des jours, voire des semaines, on remonte les étages et il y a des salles privées qu'on appelle les VIP rooms, les chambres pour les VIP, donc, qui sont en principe totalement fermées. J'ai pu y pénétrer à plusieurs reprises. Ce sont des salles moyennes, pas des grandes salles de casino, mais des petites salles. Mais ce ne sont pas des chambres. Et là, vous avez 2, 3, 5, 10 personnes qui jouent. Et là, on joue très gros. Donc, les grandes salles du casino, genre les casinos de Monte-Carlo ou de Nice, c'est pour la galerie, comme on dit, pour le public. Hein. On va jouer 10 euros, 20 euros, 100 euros. Et dans les chambres privées, aux étages supérieurs, là, vous avez vraiment les gros joueurs qui sont très, très souvent soit des caïds du milieu, soit des officiels chinois qui viennent blanchir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, physiquement parlant, c'est assez drôle parce que ces gens-là arrivent très souvent en tongs. Ils crachent par terre, ils crachent sur la moquette, ils écrasent leurs cigarettes sur la moquette. C'est incroyable, évidemment, on les laisse faire parce que ce sont des gros clients. Ils sont connus, ils sont répertoriés, on leur offre toute la nourriture gratuite, on leur offre quelquefois le voyage, et même très souvent gratuitement. Donc on les fait venir de Chine, on leur offre un hôtel 5 étoiles pendant 2, 3, 4, 5 jours, gratuitement. Sur le lit, il y a une montre Rolex en or, très souvent. Donc les hôtels investissent, enfin les hôtels casinos, investissent des dizaines de milliers d'euros pour faire venir ces gros joueurs et qui sont prêts à dépenser énormément. Alors l'intérêt pour ces joueurs aussi, et je m'en suis aperçu au bout de pratiquement le dernier jour de l'enquête, donc au bout de 8-9 jours, on me l'a dit et j'ai cherché à le vérifier, mais c'est surtout par interview off, comme on dit, c'est-à-dire anonyme qu'on le sait. C'est que si jamais un cadre du Parti communiste, par exemple, ou un dirigeant d'une petite ville est arrêté, ou dirigeant d'une usine est arrêté en Chine, on lui dit, voilà, vous avez extorqué 3 millions de dollars à la collectivité locale, d'où vient cet argent? Eh bien, si le monsieur peut, l'accusé peut justifier qu'il a un billet d'avion, qu'il était à Macao, qu'il a joué beaucoup d'argent, il peut dire, mais j'ai gagné. Voilà, moi j'ai du liquide, du cash, ou de l'argent sur mon compte en banque, je l'ai gagné au casino, c'est invérifiable. invérifiable. On peut gagner, c'est vrai, 500 000 dollars, 1 million de dollars. Mais on le gagne une fois et en principe, on perd. Et c'est très rare. Il y a une personne qui peut gagner sur 1 million, c'est prouvé mathématiquement. Et en plus, on est tellement addictif, on est tellement drogué au jeu, ça aussi c'est prouvé, qu'en principe, la personne qui a une chance sur 1 million d'avoir gagné, après on peut gagner des petites sommes, mais le mécanisme est le même. La personne qui a gagné va rejouer. Elle va reprendre son argent. Et bien, c'est magnifique, j'ai gagné 100 000 dollars, ouais, je vais rejouer. Et on repère. Et c'est aussi de la flambe. Alors, ça s'explique aussi par le fait qu'on est typiquement dans la mentalité chinoise. C'est-à-dire qu'on croit au destin, on est superstitieux, etc. Donc, il y a toute une symbolique du jeu. Ces gens-là sont autour de la table, s'épient, etc. Il y a très souvent leur garde du corps, leur protégé et des courtisanes qui sont là. Très souvent, ce sont des bottes de cuir. Alors, la botte de cuir est très, très aimée dans les salles de jeu. Et alors, on s'épie comme ça, puis on joue, puis on crie « oi, 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 oi » quand la roulette tourne ou quand on sort des cartes pour jouer au baccarat. Et puis quand on retourne les cartes, ça dure quelquefois 10 minutes. Et puis on crie, on se jette en l'air, pratiquement on saute. Et on a perdu 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 euros. Et évidemment, la personne est déçue, crie, hurle. Et puis bon, 5 minutes après, elle est prête à racheter des jetons ou à recraquer des liquidités pour jouer. Et c'est l'enfer du jeu. Et en même temps, donc, ça sert un petit peu de banque, de blanchiment, de porte de sortie, en fait, pour la corruption chinoise. Et donc, voilà, moi, je me suis régalé à écrire ce long papier qui fait je ne sais plus combien de signes et de feuillets, comme on dit entre nous.
30 000 signes.
30 000 signes. Donc, ça doit faire à peu près 20 pages dactylographiées, parce qu'on tape sur des pages de 1500 signes. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de pages. Et en même temps, moi, je me suis dit, jamais j'y arriverai. Eh bien, grâce à ça, au fait qu'on ait de la place, on est un peu dans le roman, on s'arrête sur un personnage. Alors je note un autre exemple, c'est que tu es avec un vieux monsieur que j'ai pu repérer grâce à des amis de Macao qui m'ont introduit dans les salles de jeu, etc. Et puis on m'a dit, celui-là, il faut l'interviewer. C'était quelqu'un qui venait de Hong Kong, donc c'est à côté, c'est 2 heures de bateau à peu près, et qui a 5 usines de textile, principalement en Chine. C'est un monsieur qui est riche, ou qui a été riche, parce que je ne suis pas arrivé à savoir encore. Il m'a dit, j'ai vendu 2 de mes usines. J'ai vendu 1 de mes appartements à Hong Kong. Il a vendu donc 2 usines de textiles, de vêtements, pour payer ses dettes de jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il m'a expliqué. Et une heure après, il était encore en train de jouer. Mais je m'excuse, il a 70 ans, je m'excuse. Il faut que je joue. C'est une pulsion. Et c'est comme si on ne s'en sortait pas. Ce serait comme passer par alcoolique anonyme. Et justement, c'est une pulsion de jeu, c'est une drogue, encore plus côté chinois qu'ailleurs. Alors on peut relire aussi Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, on peut lire Le joueur de Dostoïevski. On est vraiment dans l'addiction et dans la drogue. Et alors, il y a aussi des personnages fabuleux, ce sont les requins. Ce sont eux qui vont on les appelle les requins, ce sont des gens de Hong Kong, la mafia de Hong Kong, les triades, mais aussi de plus en plus de la Chine continentale, qui vont aller chercher des gros bonnets, comme on les appelle, en Chine, donc des gens qui ont de l'argent, qui sont corrompus ou pas, des grandes fortunes, et on leur fait miroiter les choses. Et donc déjà, eux, ils sont payés un petit peu à la commission, ils font venir ces gros joueurs, on va dire, dans les salles du casino. Et quand les gros joueurs n'ont plus d'argent, on vient à côté d'eux, parce que je réponds à votre question, on est tellement drogué que, ben non, on a perdu de l'argent, mais je vais pas hypothéquer mon appartement, je vais pas vendre ma voiture. Voilà, tout à fait. Et là, ça démontre qu'il y a une pulsion de jeu absolument. Mais on se suicide ou on a peur aussi à cause de la dette, à cause des requins. Parce que pourquoi? Moi, je vais jouer, je vais perdre tout mon argent. Et je vais même jouer ma montre, mon téléphone portable, ça ne coûte rien, ma voiture, etc. Et après, il y a quelqu'un qui vient derrière vous, qui dit, vous connaissez, vous n'avez pas l'air très très bien. Allez, on vous prête un peu d'argent. Combien il vous faut? Mais on ne prête pas en dessous de 10 000 dollars. Et on prête. Et alors, vous êtes pratiquement obligé de prendre cet argent et on vous dit c'est 10% par jour. Donc, on emprunte 10 000 euros, il faut rembourser 11 000 le lendemain. 12 000 et plus, c'est des intérêts cumulés, le surlendemain. Et puis, au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, même pas 10 jours, donc on double. Et voilà, donc il y a des gens qui se retrouvent avec des dettes incroyables, qui ont vendu leurs appartements. Et il y a des contrats sur la tête, non seulement la tête du joueur, mais sur toute leur famille. Les enfants, les grands-parents, etc., etc. Donc on sait qu'avec les triades, on rigole pas. Et donc voilà, donc c'est un milieu, c'est le cas de le dire, extraordinaire. Et en plus, donc, non seulement il y a la mafia, mais il y a l'appareil d'État chinois qui est là. Alors je n'ai pas eu encore de fatwa, mais peut-être que l'éditeur aussi et le rédacteur en chef sera impliqué, je ne sais pas, après la publication. Mais c'est dangereux, mais surtout parce que derrière, il y a une sorte de bulle économique pour blanchir, comme s'il y avait une sorte de super banque à l'instigation des Chinois, parce qu'on condamne à mort les plus voyants de ces corrompus. Mais comme l'État, la machine d'État participe elle-même à cette corruption, évidemment, c'est pratique, on ferme les yeux sur 90%. Du reste de la corruption, on a beau être dans un système en principe égalitaire, qui est le système communiste, on corrompt extrêmement. Il y a une classe de privilégiés qui est la classe, évidemment, des apparatchiks.
Merci de nous avoir écoutés. Merci.